La première, 17h-18h, Galaxie BD, Thierry Belfoy.
Bienvenue dans Galaxy BD en mode congé scolaire. Comme à chaque fois, nous profitons de l'occasion pour sortir de notre studio et aller voir la création, là où elle se passe. Cette semaine et la semaine prochaine, cap sur l'atelier de la seule académicienne de la bande dessinée, Catherine Meurice.
La première, Galaxy BD,
de 17h à 18h.
Eh bien, bienvenue dans mon atelier. Je suis Catherine Meurice, je suis dessinatrice de bande dessinée, autrice, illustratrice, caricaturiste. Je partage mon atelier avec deux mecs très sympas et très doués. Mathieu Bonhomme, auteur de bande dessinée, Pascal Gros, qui est dessinateur de presse. Donc voilà, on passe souvent nos journées à bien rire, ce qui est très sain pour bien bosser. Et voilà, donc je viens ici très régulièrement. Je peux même dire que je suis assidue. Je viens travailler toute la journée, du matin jusqu'au soir. Voilà, je suis très très disciplinée. C'est la première fois que j'ai un atelier aussi grand, donc ça c'est quand même un peu du luxe. Donc l'espace pour travailler, on pense souvent que les dessinateurs de BD ont besoin d'une table de 5 mètres carrés, mais de 5 centimètres carrés, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai besoin d'avoir des quantités de bouquins, de l'espace pour stocker du papier, et puis des tables pour pouvoir déjà faire plusieurs choses en même temps, plusieurs livres en même temps, faire de la peinture d'un côté, du crayon de l'autre, ou de l'ordi, etc. Donc, il me faut de la place. Donc voilà, l'atelier permet ça. Et l'atelier avec deux compères comme cela, mais ça permet justement des respirations, ça permet de comparer son travail, d'en discuter, voilà, de voir où sont les défauts. Et on est très souvent amené à discuter de nos images, quoi.
Parmi les deux compères d'atelier de Catherine Meurice, l'un est un dessinateur de presse, comme elle l'a été longtemps. L'autre est le dessinateur de Charlotte Impératrice, entre autres, et de plusieurs hors-séries de Lucky Luke, qui ont marqué par leur mise en scène spectaculaire. Son univers graphique est apparemment très éloigné de celui de Catherine.
Et je suis toujours très contente d'être derrière lui parce que je vois ce qu'il fait sur son écran. Il ne regarde pas des vidéos de chatons qui jouent et tout ça. Il fait ses couleurs et il met en couleur ses dessins. Donc je vois souvent où il en est, quand il prépare ses couves, etc. Et je suis toujours impressionnée. Enfin, il a un dessin qui n'appartient qu'à lui. Je trouve vraiment, vraiment fortiche, quoi.
Vous êtes les premiers lecteurs l'un de l'autre ?
Oui, parfois. Alors, on ne se demande pas toujours tous nos trucs.
Mathieu Bonhomme, colocataire d'atelier.
Mais c'est arrivé un peu plus récemment et effectivement, du coup, ça fait de nous nos premiers lecteurs. C'est super agréable quand on écrit une histoire de pouvoir avoir des retours avant de s'engager dans la grosse production que ça peut être. Ça peut rassurer, ça peut permettre de corriger des petites erreurs en amont, de faire réfléchir sur des trucs qu'on n'aurait pas vus, des problèmes de fond, des choses comme ça. Et c'est vachement bien de pouvoir avoir comme ça un regard professionnel, attentif et généralement bienveillant.
Moi, je vais plus être dans le numéro de claquette où je serais plus du côté du théâtre et toi du cinéma peut-être. Il y a quelque chose de vraiment d'assez, j'allais dire, spectaculaire, mais pas au sens on en prend plein les yeux. Il y a quelque chose d'ample chez Mathieu que j'admire et que, alors que moi j'ai pas du tout ça, je vais plus être dans le truc animé, expressif, rapidos, agité.
Avec cette petite comparaison de leur style, on a déjà compris où se place Catherine Meurice. Pour la résumer, on pourrait prendre le titre d'un de ses livres, La légèreté. Mais cette légèreté, et c'est l'objet du livre en question, elle a bien failli s'envoler pour toujours au matin du 7 janvier 2015. Ce jour-là, Catherine Meurice, collaboratrice de Charlie Hebdo depuis plus de 10 ans, arrive en retard, tout comme Luz, dont c'est l'anniversaire. Elle le rencontre dans la rue. C'est lui qui la prévient de ne pas monter à la rédaction. 11 ans après, elle revient pour nous sur ce moment où sa vie a basculé et sa création prit un tournant décisif.
Alors, je peux en parler aujourd'hui avec un peu plus de distance et de froideur. J'ai réussi à construire une sorte de mur entre cette catastrophe et moi, mais je vis avec. Je vis avec les disparus, les vivants, tout ce qui s'est construit depuis, tout ce qui manque depuis. J'analyse pas ce qui s'est passé. Ça, je l'ai trop fait pendant les années qui ont suivi l'attentat. J'ai tenté de le faire, j'ai toujours pas compris, je crois, parce qu'il s'est passé vraiment trop de choses. C'était un, C'est pas que c'était un millefeuille, c'était un milliard de feuilles. On a l'impression que c'est jamais fini. Voilà, on y pense tout le temps. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que ce n'est plus la terreur qui a gagné, ce sont plutôt les bons souvenirs qui reviennent. C'est-à-dire que j'ai évacué la culpabilité du survivant et je suis heureuse de me souvenir des rires de Charles, d'Honoré. Voilà, j'ai participé à une exposition en hommage à Tignoux, organisée par Chloé, sa veuve, qui va bien aujourd'hui. L'expo était super. Je peux parler de Tignoux sans pleurer. Enfin voilà, il y a tout. Je peux écouter leur voix sans pleurer. Je peux regarder des vidéos maintenant en me marrant. Ça c'est revenu et c'est ce que je retiens principalement. J'ai revu des images du bouclage, les médias ont appelé ça le bouclage du numéro des survivants. C'était le 12 janvier 2015 à Libération. Libé nous avait hébergés. Et je me vois sur les vidéos penchée, j'ai mon casque anti-bruit sur les oreilles. J'écoutais pas du tout de musique, hein, j'avais juste mis le mode silence. Et je suis voûtée sur ma page et j'essaie de faire le strip sur Elsa Kayat qui avait été assassinée. Et je suis penchée avec ma main gauche, là, cramponnée la plume, et on a l'impression que je dessine, voilà. Et moi, je me souviens que je tremblais, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à poser la plume sur le dessin. Enfin, j'ai mis 1000 ans à essayer de faire ce pauvre strip de 6 cases. Et pour autant, j'ai réussi, et je trouve que ce strip est réussi. C'était une question de vie ou de mort. Il fallait s'accrocher à la vie, et donc il nous restait très très peu d'énergie, très peu de... Et voilà, il fallait vraiment... se concentrer pour sortir le meilleur de soi, faire honneur à nos copains assassinés, être fidèle à leur mémoire, à leur esprit. Et donc, on sortait une sorte de jus comme ça, d'élixir du dessin. Et c'est vrai que le strip sur Elsa Kayat, je pense que je ne ferais pas mieux aujourd'hui, quoi.
Ces souvenirs, à la fois lointains et si prégnants, Catherine Meurice les a transcendés par l'art et l'amour du beau. Elle l'a raconté dans un livre bouleversant sur lequel nous reviendrons, La légèreté. Mais pour mieux comprendre son parcours, il nous faut tout d'abord remonter à l'enfance, une enfance partagée entre l'amour de la nature et celui des livres illustrés.
Oui, le dessin a toujours été là, dessin d'observation, dessin d'imagination. Je me souviens avoir eu des périodes. Il y a une période où petite, à 5-6 ans, je dessinais des coupes de maison. Je dessinais les étages. Je me souviens que j'adorais dessiner les toilettes, la lunette et la cuvette et le petit rouleau à papier, le petit tapis qu'on mettait devant. Voilà. Je dessinais des chaises, des lits, comme des maisons de poupées. J'ai beaucoup dessiné... des animaux habillés, debout habillés, qui se comportent comme des humains, des lapins en jean, des animaux qui font des courses dans les épiceries. J'adorais dessiner toutes les pommes dans les cajots, la petite famille de lapins qui faisait ses courses. Et puis il y avait toujours des gags, il y avait toujours une blague. Voilà, c'était là dès le début, il y avait toujours une astuce, un truc marrant, un détail idiot. Voilà, il fallait toujours que je fasse le clown dans les dessins, quoi. Je dois avouer qu'enfant, je n'étais pas une très très grande lectrice. C'est-à-dire que j'adorais les livres. Je les regardais, j'absorbais tout. Je les reniflais, je les respirais. Je pouvais les redessiner dans ma tête, mais les dessiner l'objet, voilà, vraiment. La grande lectrice, c'était ma sœur. J'ai une sœur aînée qui a quoi, 2 ans et demi de plus que moi. Et donc, elle défrichait. Elle lisait avant moi et elle me conseillait. C'est elle qui m'a conseillé Le Comte de Monte Cristo, etc. En revanche, le livre illustré, ça, c'était quelque chose que j'adorais. J'aimais autant les livres de Roald Dahl illustrés par Quentin Blake que les livres de Perrault illustrés par Gustave Doré. Je m'intéressais beaucoup. On avait à l'époque des manuels scolaires, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, mais illustrés de tableaux anciens. Moi, je me souviens, je compulsais les Lagardes et Michard, donc cette collection de livres que mon père avait utilisé quand il était jeune étudiant ou lycéen. Et donc, il y avait des extraits de textes, poésie, tragédie, etc. Il y avait toujours à côté une gravure ou une peinture ou une photo d'une sculpture en lien avec voilà, l'auteur, un buste représentant La Fontaine... ou une gravure de Oudry représentant voilà, les fables, etc. Enfin, et j'ai l'impression que mon goût pour la littérature et l'image est vraiment s'est affiné comme ça, quoi. Je n'ai jamais pu me séparer de ces deux... voilà, littérature et l'image.
L'entrée de Catherine Meurice dans le monde de la bande dessinée est parsemée de hasards et de rencontres. Tout commence à l'adolescence, très jeune. elle s'inscrit à un célèbre concours de BD.
Ça m'amusait beaucoup de participer au concours de la bande dessinée d'Angoulême, le concours scolaire. Et je l'ai gagné à 13 ans. Enfin, j'ai eu un prix national à 13 ans. Puis j'ai réessayé l'année suivante. Puis j'ai eu un prix à 14 ans. Puis j'ai réessayé. Puis j'ai eu un prix à 15 ans. Et à 16 ans, j'ai eu le grand prix, ce qu'on appelait à l'époque Alpharte scolaire. Et donc, je suis allée à Angoulême pour recevoir le prix. J'ai rencontré Jean Solé. J'ai rencontré des Florence Sestac. La grande récompense, c'était de rencontrer d'autres dessinateurs plus âgés qui avaient un avis sur mon travail. Et puis l'idée a dû faire son chemin dans ma tête.
Forte de ses premiers avis et conseils, après des débuts universitaires en fac de lettres, Catherine Meurice entre à l'école Estienne, qui forme notamment au design de communication et au métier d'art du livre.
Je ne savais pas trop à quoi ressemblait mon dessin. Je pense qu'il y avait une certaine habileté. J'aimais bricoler, par exemple j'ai appris à faire de l'aquarelle toute seule, j'avais découvert les encres toute seule, donc je bricolais toute seule, il n'y avait pas de choses très extraordinaires, mais je pense que ce qui intéressait les gens, c'est que mon dessin était peut-être déjà expressif ou espiègle, il y avait quelque chose comme ça. Le moment où j'ai commencé à comprendre quel pouvait être mon dessin, de quelle manière mon dessin pouvait être intéressant, c'est quand j'étais étudiante à l'école Estienne. Je suis sortie d'Estienne en 2002, donc à 22 ans. Et on avait un diplôme à passer. Dans le jury, il y avait encore des dessinateurs professionnels. Et je me souviens que j'avais illustré le roman de Renard de manière un peu plus marrante. J'avais fait une partie illustration classique qui illustrait le roman de Renard. Et puis dans mes carnets, j'avais fait une version plus dessin de presse marrante. Et j'avais ça, et j'avais aussi des carnets de croquis dans lesquels j'avais esquissé des renards, des personnages, et je m'étais essayée pour la première fois à l'encre de Chine, avec une plume. J'avais dessiné pour la première fois avec une plume. J'avais fait plein de tâches, mais en tout cas, il y avait des choses bricolées, raturées, et je me souviens très bien que avant de passer le diplôme, on avait une séance avec le jury qui nous conseillait un petit peu, et les illustrateurs qui étaient dans le jury m'ont dit « Bon, écoute, là, tes gouaches, elles sont jolies, mais on s'en fiche complètement. En revanche, ce qu'il y a dans tes carnets... » Ils étaient tous là en train de... Ils avaient tous le nez dans les carnets, là. Ils feuilletaient les petits machins. Ils disaient « Mais là, c'est toi. » C'est la première fois que j'ai entendu cette phrase. Ils m'ont dit « Ça, c'est toi. » Et donc, ce mois, c'était du dessin vif, expressif, à la plume, à l'encre de Chine, avec des tâches. Et ça, ça m'a beaucoup marquée. Donc, je suis allée vers ça. Il se trouve qu'en même temps, je commençais à dessiner pour Charlie Hebdo. J'avais, à faveur d'un concours, encore un concours de dessin à l'école Estienne, j'avais rencontré les gars de Charlie Hebdo. Et donc, ce dessin vif correspondait au dessin de presse, à la caricature, etc. Donc, je suis allée vers ça. Et je suis rentrée à Charlie. Et après, tout s'est enchaîné très vite. Mais...
C'est étrange d'avoir besoin des autres pour savoir ce qu'on est.
Oui, j'ai longtemps tendu l'oreille pour savoir ce que j'étais, parce que j'étais clairement en manque de confiance. En fait, c'est plus complexe que ça. Je pense qu'au fond de moi, je savais que j'aimais dessiner, que je savais que je savais faire, que j'avais un certain savoir-faire. J'ai toujours été une bonne élève, donc j'aime le travail bien fait, donc je n'aime pas décevoir, en fait. Voilà, donc j'ai longtemps eu de bonnes notes pour faire plaisir à mes profs. Hein, c'est horrible de dire ça, mais je dois l'avouer. Et je crois que intimement, je savais que j'avais un certain coup de crayon. Après, pour faire quoi, pour raconter quoi, j'en savais rien, quoi. J'étais perdue. Et c'est là où Charlie a joué un rôle magistral et très important, c'est que je suis rentrée dans une équipe où il n'y avait que des vedettes, mais personne ne se comportait comme des vedettes, et personne n'était avare de conseils, et même de compliments, parfois, ça pouvait arriver. Et ça, ça a été formidable, parce que j'ai appris à être moi au contact de cette équipe. Ouais. Dessinateur de presse, c'est un métier très singulier, et j'ai appris en regardant Wolinski, Fer, Charm, Tinius et tous les autres. À Charlie, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait à la fois faire de la caricature, du dessin d'humour, du strip, du reportage. Alors, la caricature, il s'agissait de réfléchir à la fois au fond et à la forme. Le fond, bien sûr, c'était l'actualité qu'on malaxait, qu'on faisait souvent se rencontrer deux sujets d'actualité pour créer un gag. Et la forme, c'était ce qu'on sait de la caricature. Souvent, c'est une énorme tête, des traits exagérés. Et j'allais dire, j'ai appris à être méchante, mais non, je crois que la méchanceté, elle est arrivée comme ça. Enfin, disons que Charlie, c'était un exutoire. Le principe à Charlie, c'était de se moquer des puissants. Si on peut résumer, toutes nos colères étaient transformées en dessin drôle, quoi. Donc ça m'a beaucoup plu et je me suis surprise à être plus en colère que ce que je pouvais imaginer. Pour en revenir à Charlie, c'est sûr que c'était l'endroit où on donnait des gifles, quoi, en donnant rigolant, mais ouais. C'était très formateur. J'ai eu l'impression de chausser des bottes de 7 lieues, quoi. J'y suis rentrée à 24 ans. J'ai été embauchée très vite et j'ai arrêté à 37 ans.
Qu'est-ce qui se passe quand on découvre le pouvoir de son dessin ?
Ce pouvoir, déjà, c'est le pouvoir de faire rire. Oh, c'est un plaisir immense, quoi. Enfin, moi, j'adore rire, j'adore qu'on me fasse rire et j'adore faire rire. Mais c'est sûr que d'entendre pour la première fois, notamment les copains de l'équipe de Charlie, rire de mes dessins, ça a été une révélation. Et au début, je n'osais vraiment pas montrer mes dessins. Je n'osais pas les afficher au mur comme tout le monde. Donc, les copains se moquaient de moi en disant que j'étais trop bon élève, quoi. Je trouvais que ce n'était pas assez bien ce que je faisais, etc. Et puis, un jour, je me suis lâchée. J'ai osé scotcher mes dessins au mur comme tout le monde. Et puis, j'ai entendu les rires. Et puis, c'était tellement plaisant que j'ai continué, quoi. Ça devient une addiction, quoi, de faire marrer. Et ce n'est pas si simple de faire rire. C'est vraiment un boulot, là aussi.
Le dessin de presse enthousiasme Catherine, mais il a ses limites. La dessinatrice ressent bientôt l'envie de faire autre chose, d'emprunter des voies différentes, tout en continuant de travailler à Charlie Hebdo. En 2008, elle publie Mes Hommes de Lettres, son premier livre de bande dessinée.
Ah oui, Mes Hommes de Lettres, c'est vraiment... Je déclare ma flamme aux grands écrivains. Il y a quelques autrices aussi, hein. Il y a Colette et Georges Sand, mais il y a beaucoup d'hommes... Parce que je leur déclare ma flamme tout en me moquant d'eux. Donc c'est beaucoup plus facile de se moquer des hommes, évidemment. De toute façon, ils prennent toute la place dans l'histoire littéraire, dans l'histoire des arts. Donc ça fait quoi ? Ça fait 3 ans que je suis à Charlie. Donc c'est vrai que le dessin dans Mes Hommes de Lettres, il est très vif, très aigu. Il galope à 1000 à l'heure. C'est vraiment le dessin c'est très inspiré de mon dessin de presse que je faisais par ailleurs dans le journal. J'aime bien m'entourer de personnes que j'admire, qu'elles soient vivantes ou mortes, quoi. Il y a dans Mes Hommes de Lettres, il y a Cavana, il y a Molière, il y a Proust. Voilà, donc je convoque comme ça des gens qui m'inspirent et je les regroupe. Je les regroupe tous dans une boîte, qui est le livre, cette boîte parfaite qui est le livre. Et voilà, donc Mes Hommes de Lettres, c'est une anthologie de la littérature française comique, accélérée. Je mélange la biographie des écrivains avec leurs personnages. Je vais raconter les coulisses de l'écriture d'un roman. Je vais raconter comment s'est passée l'écriture du Père Goriot, comment s'est passée la première représentation du Cid, comment Proust a été raté. Une première fois par Grasset dans Gallimard. Je me mélange, je ne sais même plus ce que j'ai dans mes bouquins. Non, c'est Gallimard qui l'a raté. C'est Gallimard qui l'a raté, oui, ouais, qui s'est rattrapé ensuite. Je ne voulais pas perdre tout ce que j'avais appris et aimé ou glané pendant mes études de lettres. Et au lycée comme à la fac, j'ai découvert Montaigne, Racine, Colette, etc. Et ça a été un tel éblouissement. Et j'étais tellement... épaulée par ces auteurs que je voulais que ce soit dans un livre. Donc j'ai rassemblé ça dans Mes Hommes de Lettres et j'ai rassemblé ce qui me fait tenir debout, c'est-à-dire la littérature et le dessin.
Mais il y avait un besoin de passer à la forme longue.
Oui, bien que Mes Hommes de Lettres, ce sont des chapitres de 10 pages. Donc c'est balbutiant. Je vais vers la forme longue tout doucement. C'est-à-dire que je passe du dessin de presse à la scénette en bande dessinée de 10 pages. Enfin, c'était plusieurs gymnastiques différentes. Dessin de presse, bande dessinée, illustration jeunesse. J'ai fait des livres jeunesse aussi quand j'étais plus jeune. Et ce sont 3 métiers différents. Et j'arrivais à mener les 3 de front, mais parce que les 3 me procuraient de la joie, tout simplement.
3 ans avant sa première bande dessinée, Catherine Meurice a publié son premier livre « Drosophile ». Un éditeur genevois spécialisé dans les ouvrages en sérigraphie. Il ne s'agit pas tout à fait d'une BD pour le coup, mais d'un livre écrit à la main et illustré.
Ça a été mon diplôme de fin d'année aux Arts Déco, parce qu'après l'école Estienne, j'ai fait les Arts Déco de Paris, tout en faisant Charlie à côté, tout en travaillant Charlie et aux Échos et dans la presse à côté, parce que tout a démarré en même temps pendant mes études. Et je voulais faire un livre illustré, comme ce que j'aimais quand j'étais petite, un livre illustré un peu qui, dont les illustrations faisaient référence aux illustrés du 19e, aux caricatures du 19e. J'étais tombée sur un tout petit bouquin en librairie. Sur la couverture, il y avait une reproduction de La mort de Sardanapale, le tableau de la croix que j'adore. Et j'ai pris ce petit livre, et c'est Dumas qui racontait la vie de son ami Delacroix. Donc je me suis dit, tiens, ben ça, je pourrais l'illustrer. Ça m'a tout de suite parlé. Mais au hasard, il y a une rencontre, en fait. Je crois qu'il y a toujours, ça est toujours des rencontres. Je me suis dit, ben voilà, je vais illustrer Dumas. Je vais réécrire tout le texte de Dumas à la main, à la plume. Et je vais incruster, voilà, je vais ajouter des illustrations à l'intérieur. Et donc, ça a donné la première version de ce bouquin sur Delacroix, qui, à l'époque, s'appelait... ouvrez les guillemets, Alexandre Dumas, deux points, causerie sur Delacroix, titre beaucoup trop long, mais ça a quand même été publié dans la foulée, juste après ma sortie de l'école des Arts Déco. Et 15 ans après, je l'ai repris. Je l'ai repris en quelle année ? Je l'ai repris en 2019, donc 4 ans après l'attentat contre Charlie. Et lors de l'attentat, j'ai tout perdu. Enfin, j'ai perdu des amis, j'ai perdu... la mémoire, en tout cas, pendant presque un an, j'ai perdu le goût de l'insouciance, etc. Bon. Et après 2015, j'ai voulu rassembler des choses, rassembler des fragments de souvenirs. Je raconte tout ça dans la légèreté. Et j'ai voulu y mettre de la couleur, de la peinture. Voilà, de l'eau avait coulé sous les ponts. Donc, je l'ai repris, je l'ai publié chez Dargaud. J'ai conservé certains dessins de 2005. L'écriture manuscrite, pareil, c'est mon écriture de 2005. Et j'ai rajouté d'autres tableaux. J'ai vraiment injecté de la couleur et de la peinture dans ce livre. Et ça donne un livre hybride que j'aime beaucoup, et je peux d'autant plus le dire que c'est le texte de Dumas. Enfin, c'est vraiment un texte génial, quoi. C'est la voix de Dumas. Il raconte, alors... On a envie de lui faire confiance, je pense pas qu'il raconte trop de mensonges, mais voilà, il raconte avec sa verve, la verve qu'on lui connaît, et puis ses sentiments, voilà, son amour de l'amitié, et puis son goût pour la peinture, quoi. Il aimait vraiment ça, il avait un œil pour ça, donc c'est un livre, c'est un texte vraiment intéressant. Ouais.
Revenons aux premières années. Parmi les livres de jeunesse de Catherine Meurice, on trouve aussi cette réjouissante collaboration avec Julie Birman, Drôle de femme. Un livre qui était réellement en avance sur son temps.
Bah, cette liberté qu'il y a dans ce livre, c'est le grain de folie de Julie. Alors, j'ai ajouté mon grain de folie à moi, alors ça donne, ça donne quelque chose d'un peu dingue et en même temps très, très structuré et très bien écrit. C'est Julie qui a écrit les textes, c'est vraiment très bien. Comment ça s'est passé, Julie Birman? À l'époque, donc on s'est rencontrés, je crois, en 2009, était journaliste. Elle avait commencé à interviewer des femmes drôles, c'était son sujet de prédilection, pour en faire des portraits sonores sur la radio française, France Culture notamment. Donc elle avait rencontré Yolande Moreau, elle avait rencontré Zouk, elle avait rencontré Sylvie Joly, etc. Elle avait vraiment des tas d'enregistrements. Et elle avait retranscrit tout ça en se mettant en scène, parce que c'était elle le fil rouge. C'était intéressant d'ailleurs. Elle se racontait en train de acheter des fleurs parce qu'elle voulait offrir des fleurs à Sylvie Joly. Donc elle avait l'art comme ça de se décrire en train d'aller chez le fleuriste faire ceci cela. C'était très drôle. Donc elle a écrit tout ça et elle est venue avec son manuscrit, la retranscription donc de ses interviews. Elle m'a dit voilà, j'ai tout ça. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Je te le confie. Qu'est-ce qu'on en fait? Et je lui dis, écoute, tu me confies ça, on va en faire une bande dessinée, mais tu me laisses faire. Donc là, Julie m'a confié son livre comme on pourrait confier un manuscrit, un roman, et j'ai pioché dedans et j'ai fait le découpage. En tout cas, voilà, on a sélectionné 9 femmes comédiennes, humoristes. Il y a même Amélie Nothomb qui est dedans, parce que Julie l'a considérée comme une femme très drôle, ce qu'elle est, c'est vrai. Il y a Dominique Lavanant. Voilà, donc on a fait ces 9 portraits. Donc certaines femmes, je ne les ai pas rencontrées parce que Julie les avait vues avant moi. Et d'autres, on est allé les voir ensemble. Voilà, donc je suis allée voir Tia Shelton à Bruxelles. Comme Julie avait perdu l'enregistrement de l'interview de Dominique Lavanant, on est allé rendre visite à Claire Bretéché, qui était sa grande copine, pour que Claire Bretéché nous raconte Lavanant. Et comme ça, Julie allait essayer de récupérer des infos. Et elle met tout ça en scène dans l'album Drôle de femme. On lit ça, on lit cet échec, ce foirage du début. Et puis, comment on récupère les infos. Et c'est la première fois, enfin, ça a été l'occasion pour moi de rencontrer Bretéché. C'est la première fois que je l'ai vu. Ouais. 2009, je m'en souviendrai toujours. J'étais. On est allé chez elle. Elle avait son grand appartement dans le 18e, là près de Pigalle. Et Julie était avec moi, et moi j'avais très peur, je me disais, oh là là, c'est vraiment une star. Puis elle fait la gueule tout le temps, quoi. Elle fait la gueule, elle va faire la gueule, on va l'emmerder. Et on toque à la porte, on avait un bouquet, des bouquins, je sais plus quoi. Elle ouvre à la porte, et Bretéché ouvre, et un sourire, elle avait un sourire jusqu'aux oreilles, quoi. Je me dis, ah, mais en fait, elle sait sourire, elle était magnifique, et elle était absolument ravie de nous rencontrer. Et je me souviens que Julie était très à l'aise dans le canapé, vraiment, voilà, assise dans le fond du canapé à parler. Et donc, Claire, qu'est-ce que vous pensez de... Et moi, j'étais tellement intimidée que j'avais juste le bout des fesses au bout du fauteuil, comme ça, avec les jambes croisées, hyper raide. Et puis, elle parlait des seins, elle adorait Franquin, elle adorait Georges Beville, qui est un illustrateur qu'on est nombreux à aimer dans le milieu des dessinateurs. Et puis elle avait lu mes livres, j'en revenais pas, quoi. Elle aimait mes livres, alors ça, c'était... J'étais rouge comme une tomate, quoi. Elle s'était marrée en lisant mes hommes de lettres, elle adorait. Alors ça, oh là là, ah, j'en suis presque émue quand j'y repense, parce que c'était le Graal, quoi. Je me disais, oh là là, mais... On était un peu en avance sur notre temps, quand même, parce que le bouquin est sorti en 2010. Je pense que s'il était sorti après Me Too, on aurait eu beaucoup plus de lectrices. Toutes ces femmes interviewées disaient qu'elles s'étaient battues pour faire de l'humour leur métier. Quoi. Sylvie Joly était avocate, mais elle pleurait, elle était déprimée parce qu'elle détestait ce métier. Elle voulait être sur scène, et son mari l'a aidée. Et son mari l'a encouragée, pardon. Et enfin, quand elle est devenue comédienne, c'était voilà, une renaissance. Quoi. Et toutes, elles racontaient ça, les galères pour gagner du terrain sur... oui, parce que l'humour, c'est le territoire des hommes, hein, historiquement.
On écoute Sylvie Joly en 1997 à la RTBF. Elle parle justement de la place de l'humour dans sa vie.
De toute façon, si un mec n'avait pas d'humour, il ne me plaisait pas. Donc de toute façon, ça m'était égal. Mais s'il avait de l'humour, je le faisais rire. Je l'avais à moitié conquis, je veux dire. Évidemment, une fille qui est drôle, je trouve que c'est quand même assez sympa pour un mec. Oui, une femme drôle fait peut-être peur à des mecs qui ne sont pas drôles, alors qu'ils n'ont pas d'humour. Je trouve que c'est dommage s'ils ont peur d'une femme drôle, que si elle ne va pas les mordre. Elle est drôle. Mais je trouve que c'est merveilleux de rire avec un mec.
Au printemps 2014, un peu moins d'un an avant l'attentat de Charlie Hebdo, Catherine Meurice publie un livre qui résonne encore aujourd'hui comme la première pierre de l'édifice qui adviendra après. C'est par l'art et par le regard sur la beauté qu'elle reviendra peu à peu à la vie. Et c'est sur un parcours au milieu des plus beaux tableaux du musée d'Orsay que s'achève précisément la première partie de son œuvre, celle qui va être littéralement coupée en deux le 7 janvier 2015.
J'ai l'impression que tous mes livres révèlent que je suis une grande amoureuse, une grande sentimentale en tout cas. En effet, Modern Olympia, c'est un livre de commande, mais en forme de carte blanche. C'est-à-dire qu'il existait déjà cette très belle collection de bandes dessinées en partenariat avec le Louvre. Et le musée d'Orsay voulait faire la même chose. Et le musée m'a dit, tout fait ce que vous voulez, vous pouvez parler d'un peintre, d'un tableau, de tous les tableaux du musée, l'architecture du musée, de la gare avant le musée. Enfin, je connais aussi très bien le Louvre, j'étais gardienne de musée au Louvre et à Orsay quand j'étais étudiante, certains étés. Et donc je connaissais bien Orsay, donc je pouvais établir mentalement une sorte de carte du Tendre où je pouvais dire où étaient Manet, Monet, Van Gogh, en haut à droite, à gauche, et puis voilà, ça c'est, je vois telle couleur ici, l'ours de Pompon, il est par là-bas. Enfin, j'avais toute cette géographie en tête. Donc ça, c'était déjà prêt. Donc il s'agissait ensuite de se laisser guider par des intuitions, des impressions, des souvenirs, des envies. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée me balader à Orsay comme ça, sans trop d'idées, je me suis posée devant dans la grande nef et j'ai regardé cette grande verrière à l'entrée dans le hall central où on voit encore l'horloge de la gare. Et donc, c'est dans cette architecture fin de siècle avec des anciennes gares, du fer forgé, etc. Et j'ai tout de suite vu l'affiche de White Side Story. Je me suis dit, mais bien sûr, c'est voilà, on est dans les escaliers de fer de New York, c'est ça, ça va être ça. Donc, ce que je vais faire une comédie musicale, je vais faire West Side Story au musée d'Orsay. Alors, West Side Story, qu'est-ce que c'est? C'est Roméo et Juliette, les Jets et les Sharks, donc deux clans qui se foutent sur la gueule. Mais dans l'art, il y a toujours eu des clans qui se foutaient sur la gueule. Donc, en l'occurrence, à Orsay, il y a les académiques, c'est une académicienne qui parle, les académiques et les impressionnistes ou les futurs impressionnistes. Et qui était exposé au salon des refusés. Donc j'ai créé le clan des refusés en opposition au clan des officiels. Et l'intrigue, ça va être une sorte de Juliette. Alors ma Juliette, c'est Olympia, qui vient du tableau de Manet. Parce que cette courtisane à poil là, qui regarde le visiteur, ça a vraiment changé la face de l'histoire de l'art. Donc c'était important que ce soit mon héroïne. Et puis, dans le clan des officiels, j'ai choisi, voilà, mon Roméo, c'est un Romain de cet immense tableau de Thomas Couture, Les Romains de la Décadence. Donc, mon héros se trimballe en toge dans tout l'album, et Olympia, elle est à poil dans tout l'album, elle a juste ce petit ruban noir qui l'habille. Bon. Et je reprends l'intrigue de West Side Story, mais je la mélange aussi à Chantons sous la pluie, tant qu'à faire, parce que j'adore cette comédie. Oh là là, mais je la trouve vraiment extra. En plus, j'étais amoureuse de Gene Kelly à l'époque. Tout ne parle que d'amour. et voilà, donc j'ai fait un mélange entre ces deux intrigues, où en gros, dans Chantons sous la pluie, il y a l'arrivée du cinéma parlant qui vient foutre en l'air le cinéma muet. Bon, ben là, c'est l'arrivée des impressionnistes qui vont rendre un peu caduque la peinture officielle. Donc en fait, Modern Olympia, c'est vraiment je transpose le monde de la peinture dans le monde du cinéma en jouant un peu sur les mots, la toile de peinture, la toile de cinéma. Et le musée devient comme un immense studio où on voit comment les films peintures se construisent, donc les personnages des peintures sont des figurants. En fait, c'est comme un guide du musée qui ne veut pas l'admettre. Enfin, c'est-à-dire qu'on passe, je crois qu'il y a plus d'une cinquantaine d'œuvres d'Orsay qui apparaissent dans cet album. Donc, si vous vous baladez dans le musée, vous pouvez avoir la bande dessinée dans les mains, vous retrouverez tout à tous les étages, quoi. Ah oui, dans mon histoire, je parle du statut de la femme peintre, qu'il y en a très peu, la muse, la nymphe, la déesse, enfin, comment les hommes regardaient les femmes, etc. D'où cette héroïne d'Olympia qui regarde le spectateur et qui prend finalement le pouvoir dans la BD. Et je me disais, mais comment vont réagir des conservateurs d'Orsay? Parce que là, je fais une grosse farce, ça court dans tous les sens, ça donne des baffes et tout. Et alors, la surprise géniale, c'est que les conservateurs m'ont dit « Vous avez tout compris !» Ils m'ont dit « C'est exactement ça !» Alors moi, vraiment, j'étais un peu dans mes petits souliers. Je me suis dit « Oh là, bon, je suis contente de ma petite blague. » Je me suis dit « Ok, si ça plaît même aux gens qui ont l'air très sérieux, ça passe. » Et puis en fait, on se rend compte que les conservateurs aussi ont de l'humour.
La première, Galaxy BD, Thierry Belfroy.
Voilà, fin de la première partie de ce portrait de Catherine Meurice. La suite samedi prochain. Nous ne sommes pas encore au bout de cette émission. Dans un instant, Marion Joumotte est avec nous pour conclure cette émission. Marion,
bonjour. 11 ans après les attentats de Charlie, dont on vient de parler dans cette première partie du portrait de Catherine, vous vous posez cette question. Que reste-t-il dans la pop culture de cet événement traumatisant? Et on commence par les tags des murs de Paris.
Eh oui, souvenez-vous, après les attentats de janvier 2015, les murs de Paris sont devenus des lieux de recueillement autant que d'expression. Dessins au crayon levé sur les bâtiments, messages de liberté griffonnés à la hâte, nom des victimes tagués et puis le fameux « Je suis Charlie » inscrit partout dans la ville lumière. 11 ans plus tard, que reste-t-il de ces œuvres éphémères? Eh bien, pas grand-chose. Les collages se sont déchirés pour disparaître morceau par morceau. Les mots ont été effacés par le temps qui passe et les intempéries. Les peintures ont été recouvertes par d'autres couleurs défendant d'autres luttes. Heureusement, bonne nouvelle, ces hommages des artistes urbains ont été répertoriés dans un livre photographique intitulé « Le street art de Charlie, les mémoires des murs », un bouquin conçu comme un témoignage documentaire destiné à conserver la trace d'un art voué à disparaître, afin que ces images nées dans l'urgence collective continuent d'exister au-delà des murs qui les ont portées. C'est sorti aux éditions Omniscience dans la collection Street Art.
Alors, je me souviens d'une initiative similaire pour les dessins de presse en hommage à Charlie qui ont fleuré aux quatre coins du monde, non?
Oui, je pense que sur les réseaux, hein, partout, sur X, Instagram, Facebook, dans votre fil d'actualité à l'époque, dans les jours qui ont suivi les attentats, eh bien, vous avez pu voir des dessinateurs du monde entier dessiner leur sidération, montrer leur soutien envers les victimes avec la mine de leur crayon, revendiquer la liberté d'expression sur un bout de papier. Et ces dessins, eh bien, pour qu'ils ne se perdent pas dans les méandres d'Internet, puisqu'une actualité en remplace vite une autre, eh bien, ils ont été rassemblés dans un recueil intitulé La BD et Charlie, une sorte de témoignage de l'incroyable solidarité artistique que ce drame a suscité. Une initiative collective, cette fois, que l'on doit au Syndicat national de l'édition.
Oui, parce qu'on est en radio, on peut aussi se replonger dans cet événement de 2015 en chanson, Marion.
Au rythme de la vie, je marche ma douleur et je marche Charlie. Je ris et je pleure, c'est l'âme de silence pour libérer nos cœurs, pour apaiser ma France dans mes bras grande sœur.
Vous aurez sans doute reconnu la douce voix du chanteur M, hein, Mathieu Chédid, avec son titre « Comme un seul homme ». Dans les jours qui ont suivi les attentats de janvier 2015, plusieurs artistes ont ressenti l'urgence de répondre non pas par le silence, mais par les mots et la musique. Ils ont pris leurs plumes, leurs guitares pour coucher une émotion commune. Et parmi les chansons écrites d'une traite en hommage à Charlie, on retrouve aussi le slam de Grand Corps Malade.
Soyons 66 millions à avoir la même idée, pour que leurs cartouches d'encre à eux ne soient plus jamais vidées. Laissons des traces indélébiles pour que l'avenir puisse savoir que leur talent et leur courage ne vivent pas que dans nos mémoires.
Et même le Taulier a sorti une chanson à l'époque, intitulée « Un dimanche de janvier ». Cette chanson de Johnny, elle fait directement référence aux marches organisées partout en France le dimanche 11 janvier 2015, donc quelques jours seulement après les attentats de Charlie et de l'Hyper-Cacher et de Montrouge. Une chanson grave, presque cérémonielle, tournée vers le souvenir et la dignité.
Pour apaiser la peine tout un pays soulevé, nous étions venus sans peur et sans haine ce dimanche de janvier.
Alors comme on est quand même dans une émission de bande dessinée, Galaxy BD, Marion, vous avez aussi évidemment compilé ce qui avait été fait en bande dessinée et on ne pouvait pas ne pas évoquer Dessiner encore de Coco qui est paru aux éditions des Arènes en 2021.
Oui, Dessiner encore, je pense que c'est un peu mon favori de toutes ces séries qui est sortie suite aux attentats. Dans Dessiner encore, la dessinatrice Coco, eh bien, survivante de l'attentat contre Charlie et surtout contrainte d'avoir ouvert la porte aux tueurs ce jour-là, elle raconte la lente reconstruction après le traumatisme. Pour elle, reprendre le crayon a été un geste vital, comme elle le raconte au micro de France Info.
Saisie d'effroi. Putain, c'est vrai que c'est fou, que c'est fou l'effet que ça fait. Hein. Dessiner, c'est mon métier, c'est ma passion. Et c'est vrai qu'après l'attentat, ça a été quelque chose... c'était ce à quoi je me suis accrochée fermement pour pouvoir continuer à vivre, oui.
Souvenez-vous, Thierry, cet album, il est baigné de bleu, comme une mer intérieure fragile, traversée par la métaphore de la vague qui submerge, puis se retire, sans jamais vraiment tout à fait disparaître. Je vous invite également à écouter une interview de Coco dans l'émission Les Petits Papiers, hein, de Régine Dubois. C'est sorti ici, début janvier de cette année. Une conversation passionnante dans laquelle il est question de mémoire, de responsabilité, de son regard sur le monde, de cabu, de féminisme ou encore de l'intelligence artificielle qu'elle déteste.
Oui, alors on peut aussi, si on parle de bande dessinée, évidemment, en référence à la légèreté de Catherine Meurice, parler du catharsis de Luz qui s'est déroulé de la même manière. Il raconte comment le dessinateur a peu à peu retrouvé la lumière après le 7 janvier 2015. Mais il y a un autre ouvrage dont vous vouliez nous parler, c'est celui de la compagne de Luz, un essai intitulé Ricochet par la journaliste Camille Emmanuel.
Ouais, le 7 janvier 2015, c'est le jour des attentats de Charlie, mais c'est aussi le jour de l'anniversaire du dessinateur Luz, membre de la rédaction. À cette occasion, il décide de rester un petit peu plus longtemps dans le lit avec sa compagne, donc il arrive en retard à la réunion de rédaction et échappe à la mort de quelques minutes seulement. Alors Luz, forcément, vous en doutez, il est lourdement traumatisé par cet événement. Et sa compagne, Camille Emmanuel, eh bien, elle raconte dans Ricochet un phénomène dont on parle, au fond, peu. C'est ce qu'on pourrait appeler les grands oubliés des attentats terroristes. Ce sont les vies bouleversées par Ricochet, celles des proches, de ceux qui restent. Le livre y rappelle ainsi que la tragédie, eh bien, elle touche bien au-delà des noms que l'histoire retient. Et que cette douleur périphérique, plus discrète, eh bien, elle demeure pourtant profondément réelle.
Et avant de se quitter, Marion, vous avez une petite recommandation pour cette
oui.
semaine ?
Je sors de la lecture du Garçon et le Dragon par Hidonaka aux éditions Doki Doki. C'est un manga qu'on retrouve au rayon jeunesse et que j'ai trouvé très fort pour les valeurs qu'il transmet. C'est un manga one shot qui explore le thème de l'amitié, de l'amour, de la résilience. Et le pitch, eh bien, c'est un jeune garçon, Shitaro, qui se réveille face à un dieu dragon qui le prend pour sa fiancée. Le jeune homme n'a aucun souvenir de qui il est tout simplement amnésique. Au fur et à mesure qu'on tourne les pages, eh bien, les deux personnages apprennent à se connaître et prennent soin l'un de l'autre. On découvre peu à peu leur histoire respective. La solitude d'un dieu dragon oublié de tous en quête de compagnie et puis la souffrance d'un jeune garçon vivant dans un foyer violent. Petit à petit, sa mémoire revient et on comprend pourquoi il est amnésique. Ensemble, ces deux personnages vont découvrir la signification du mot amour, ouvrir son cœur, se faire confiance, accepter l'autre tel qu'il est avec ses failles. Et malgré la dureté du propos, eh bien, les pages sont remplies d'humour, de petits moments tout doux, comme le partage d'un ragoût bien chaud, créer un abri sous la couette pour protéger l'autre quand on a peur des orages ou encore profiter d'un pique-nique au soleil.
Quant à moi, eh bien, je vous propose de relire ou de lire, peut-être, si vous voulez la découvrir, Catherine Meurice, dont nous avons parlé aujourd'hui de quelques-uns des premiers livres. Alors, il y a évidemment « Mes hommes de lettres », son premier roman graphique. Il y a aussi le suivant « Pont des arts », qui sont tous les deux parus chez Sarbacane. De très, très, très beaux livres qui ont très bien vieilli. Et puis, un peu plus tard dans sa carrière, il y a « Modern Olympia », bien entendu, dont nous avons parlé juste avant la fin de cette première partie de portrait. Et entre les deux, le fameux « Drôle de femme » consacré à toutes ces femmes qui font rire. C'est un livre qu'elle avait réalisé en collaboration avec Julie Birman et qui est paru chez Dargo. On se retrouve donc la semaine prochaine avec une deuxième partie de l'œuvre de Catherine Meurice qui va se dérouler après 2015, vous l'aurez compris, et notamment avec l'album dont nous avons déjà effleuré le sujet, La Légèreté. À la semaine prochaine.